Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotrou en air, l'émission du club radio du lycée Rotrou. Aujourd'hui, alors que les présidentielles se rapprochent à grands pas, nous plongerons avec Lana et Maeva, guidés par Olivier Marleix, député de la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire, pour vous donner un aperçu des coulisses de ces élections pas comme les autres. Nous remonterons ensuite en surface à bord de la Chronique D, où Dimitri reviendra sur le vote par jugement majoritaire mis au devant de la scène par la primaire populaire. Bonjour Lana, bonjour Maeva. Nous sommes prêts à plonger avec vous et votre guide direction la partie immergée de la présidentielle.
Bonjour Monsieur Marleix.
À partir de quand ça s'élabore un programme présidentiel ?
Un programme pour une élection présidentielle, c'est un travail immense parce qu'il faut être capable de répondre, y compris à des questions, à des attentes très très précises de telle ou telle catégorie professionnelle. Donc c'est vraiment un travail un peu permanent en fait qui s'organise d'une élection présidentielle à l'autre. Chaque parti politique a son socle un peu d'idées, de combats à mener, d'idées à porter. Et elle le réactualise tout au long du quinquennat, parce que parfois certains sujets sont déjà abordés ou certaines réponses vont être abordées pendant le mandat écoulé, donc ils deviennent obsolètes. Et puis de nouveaux sujets peuvent apparaître. Donc c'est un travail permanent qui se fait tout au long du quinquennat et puis qui se cristallise, on va dire, dans les 9-10 derniers mois avant l'élection présidentielle. Il ne faut pas non plus le finaliser trop tôt parce que vous avez des sujets qui peuvent apparaître dans l'actualité jusqu'au bout, dans un monde où les choses, où tout bouge très très vite, où des sujets peuvent arriver sur le devant de la scène alors qu'il n'y était pas quelques années auparavant.
Qui se charge de l'écrire et sur quelle base ?
Alors, bon, écoutez, je pense que chaque parti politique, chaque famille politique a ses propres méthodes. Moi, je peux témoigner de ce qui s'est passé chez moi, chez les Républicains, donc avec notre candidate Valérie Pécresse, puisque j'ai été chargé de la rédaction de ce programme pour les Républicains. Donc, en fait, on s'est nourri d'abord d'un travail de convention qui a été fait pendant les 5 dernières années, thème après thème. Vous avez eu des conventions sur l'agriculture, l'alimentation, vous en avez eu sur la politique industrielle, vous en avez eu sur la santé, vous en avez eu sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Vous voyez, tout ce genre de sujets qui sont égrenés de manière un peu permanente. Et puis, il y a un moment où, pour nous, ça a été au mois de juillet, c'est-à-dire avant la désignation de notre candidat, où le parti politique a mis en forme, a fait des arbitrages sur ces projets. Pourquoi il faut faire des arbitrages ? Parce qu'à un moment, il faut quand même être conscient du coût budgétaire que représente ce projet. Les propositions nouvelles que vous faites, quand il y a des propositions de dépenses qui ont un impact en matière de dépenses publiques, ben évidemment, faut être capable de dire comment vous allez les financer.
Et est-ce qu'il y a des accords et comment est-ce qu'ils sont traités ?
Oui, alors d'ailleurs, chez nous, en fait, ce processus il s'est fait en deux temps. Donc c'est l'instance dirigeante du parti qui a finalisé ce projet, enfin qui a rendu les arbitrages, on va dire, sur ma proposition. Et puis après, on a désigné notre candidat. Nous, c'est là que ça se fait un peu en deux temps, c'est-à-dire qu'on laisse aussi... moi, j'avais pris soin sur un certain nombre de sujets de laisser quand même une marge d'arbitrage, de décision à notre candidat, qui est une candidate en l'occurrence. Voilà, donc elle n'est pas non plus totalement liée par notre projet et on a mis des propositions sur la table, en fait, et elle-même le transforme en un projet présidentiel.
Et sinon, avant les élections, comment communiquer le programme aux électeurs, etc.
Alors, en général, tous les partis politiques, tous les candidats à l'élection présidentielle vont à un moment ou à un autre produire un document qui sera leur projet. Il faut à la fois la difficulté d'un projet présidentiel, c'est que vous devez à la fois trouver, il doit y avoir une cohérence globale, évidemment, vous devez porter une vision. Et puis, vous voyez, assez rapidement, il faut des propositions très détaillées. Il faut être capable de répondre à toutes les catégories socioprofessionnelles pour qui l'élection présidentielle est le rendez-vous qui va fixer le programme législatif des 5 années suivantes. Donc si vous voulez avoir une chance de faire passer une idée, c'est le moment ou jamais. Et donc ça veut dire que c'est un travail vraiment... on ne peut pas faire d'impasse, quoi. Un candidat, il est candidat sur un projet, quelques grandes idées, quelques grands engagements qui vont aussi toucher la sensibilité des Français, je vais peut-être y revenir. Mais il doit être capable de répondre à tout le monde parce que c'est le moment fondateur dans la vie politique où on reprend un départ et tous les 5 ans en France, on a un rythme très, 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 très précis dans notre vie politique. Et puis alors, dernier élément de complication, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une grande vision, d'être capable de répondre aux demandes de précision de tout le monde. il faut quand même savoir, pour être élu, vraiment rencontrer les attentes fondamentales de l'opinion. Alors ça, c'est un sujet encore plus compliqué, parce que ça va passer par la façon dont vous allez l'exprimer, dont vous allez vous faire comprendre, dont vous allez arriver à toucher, à trouver les mots justes, à trouver la mesure emblématique qui va vraiment toucher les gens, les interpeller, leur dire bah oui, ça, si j'avais ça, si ça fonctionnait comme ça, ce serait très important. Dans l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il y avait la question des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ça a été perçu comme un changement de mentalité dans la société. Si on travaille plus, on pourra gagner plus. Voilà. C'est une mesure qui a été très, très forte. Vous avez eu à l'inverse, quelques années avant, les 35 heures, qui étaient ben, finalement, puisqu'il y a du chômage, puisqu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, et ben, peut-être qu'on pourrait tous travailler un peu moins, avoir une vie avec plus de loisirs, etc. Et c'est des idées comme ça qui renvoient à une réalité économique et qui touche les aspirations de chacun. Et c'est ce genre d'idées-là, en général, qui font mouche dans une élection et qui vous permettent d'avoir, au bout du compte, un succès électoral. Encore faut-il évidemment que ces idées soient cohérentes par rapport au fond de votre projet, à la vision que vous avez de la société, qu'elles la traduisent, qu'elles permettent aux gens, en fait, de s'approprier votre projet, votre vision pour la France.
Alors, monsieur le député, comment un parti gère-t-il les imprévus et les obstacles pendant la campagne ?
Alors ça, c'est très important. C'est tout le charme d'une campagne électorale. Vous savez, en termes militaires, on distingue la stratégie, c'est le long terme, c'est la capacité à voir loin, etc. Et la tactique. La tactique, c'est vraiment le court terme, c'est le plus précis. Vous devez avoir à la fois une stratégie un peu définie à long terme, c'est les grandes idées que vous allez porter, comment vous pensez que vous êtes en phase avec certains d'opinion, avec les problèmes objectifs du pays. Puis il y a la tactique, ça va être la façon de les adapter et de les insérer, de les rendre pertinentes, lisibles pour les Français dans le débat. Donc ça, il faut savoir s'adapter à ce qui se passe, à ce qui se passe au jour le jour. Il y a des sujets dans l'actualité qui sont l'occasion de rendre visible, lisible, une proposition. Donc il faut savoir s'adapter en permanence dans une campagne.
Alors, monsieur, comment vit-on une soirée électorale au sein d'un parti ?
Ah bah, c'est toujours un moment de grande effervescence. Voilà. Ça a un petit peu perdu depuis 30 ans, parce que les sondages vous donnent quand même, notamment ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes, vous donnent en général dans la journée des grandes tendances sur les résultats. Et il est assez rare qu'il y ait une surprise énorme. Cela dit, il y a toujours quand même des surprises. Il y a toujours des surprises, et même sur l'élection présidentielle, l'ordre d'arrivée, pas forcément celui qu'on attendait, et l'ordre d'arrivée au premier tour, c'est quelque chose de déterminant, puisqu'il n'y en a que deux qualifiés au second tour, et qu'on sait que, par exemple, sur la prochaine élection présidentielle, il y aura vraisemblablement trois candidats qui seront dans un écart de 4 points. Alors, savoir que les marges d'erreur des sondages, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3 à 4 points. Donc vous aurez, je pense, un vrai suspense. À l'heure qu'il est, si l'élection présidentielle avait lieu dans 15 jours, vous auriez un suspense clair entre savoir qui est qualifié, entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Donc il y a toujours quand même cette part d'inconnu, cette surprise qui a toujours joué dans toutes les élections présidentielles, notamment sur les écarts. Vous avez voilà. Et donc, d'autant qu'avec le vote en faveur des extrêmes, notamment en faveur de l'extrême droite, les sondeurs ont plus de mal à le mesurer, parce que vous avez longtemps, on a cru que c'était un vote qui était caché, que dans les sondages, les gens ne disaient pas qu'ils votaient pour l'extrême droite. Aujourd'hui, on se rend compte au contraire que dans les sondages, à force de corriger, que les sondages les surcotent toujours. Donc il y a toujours des surprises. C'est le charme de la vie politique, heureusement, si les sondeurs nous disaient tout à l'avance.
Et après l'élection ?
Ah ben, c'est pas les mêmes conséquences, évidemment. Moi, j'ai vécu des soirées électorales. Enfin, pour ne parler que des élections présidentielles, des soirées heureuses, des soirées moins heureuses pour la famille politique à laquelle j'appartiens. Ben, quand vous gagnez, il y a toujours un moment d'euphorie partagé avec des gens avec qui vous avez fait campagne, tous les militants, etc. Bon. En général, ça ne dure pas non plus extrêmement longtemps, parce que assez vite, vous êtes confronté à des vraies réalités. Et en France, on n'a pas de période de transition très, très, très longue. Alors là, on en aura une un peu plus longue que d'habitude, puisque l'élection présidentielle, le second tour, a été avancé le 24 avril, le second tour, alors que le président Macron avait dû être élu mémoire, un 7 mai, et que donc son mandat court jusque. Donc on va avoir une douzaine de jours où on aura un président élu et un président en place. C'est assez peu. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus long. Le président est élu en novembre. Je crois qu'il n'est installé que courant janvier. Donc vous avez vraiment 2 mois et demi pour préparer la transition. Bon, quand vous gagnez, vous avez quand même ce travail très vite de vous mettre au travail, de préparer les choses. Donc, après, ça va très vite. Il faut réunir le Parlement. Vous avez des élections législatives au mois de juin. Et il faut prévoir une session extraordinaire pour faire voter les principales mesures que vous avez décidé de mettre en place. Donc ça va très très vite, vous n'avez pas de temps à perdre. Quand vous perdez, vous avez beaucoup plus de temps devant vous. Et là, en général, ça ouvre la voie à des espèces de règlements de compte dans le camp des perdants, savoir la faute, qui est responsable de la défaite. Est-ce que c'est le candidat lui-même qui était pas bon? Est-ce que c'est le projet politique qui était devenu illisible? Est-ce que c'est, enfin voilà. Donc, est-ce que c'est le manque de solidarité de ses compagnons? C'est par exemple le grand quand Ségolène Royal a perdu l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy, elle-même a un peu renvoyé la responsabilité sur ce qu'on appelle les éléphants du PS, qui est en général des hommes, qui n'avaient pas tous mis un enthousiasme, un engagement formidable dans sa campagne. Quoi. Voilà, donc il y a toujours cette phase de règlement de compte qui font aussi partie de la vie politique. Et en démocratie, ce qui compte, c'est quand même le message que vous envoient les électeurs. Donc si les électeurs vous ont dit que vous n'étiez pas convaincant, il faut se remettre en cause, c'est le jeu politique.
Et nous avons, pour finir, nous avons remarqué que les jeunes, aujourd'hui, ils ne s'intéressent pas forcément à la politique. Donc, qu'avez-vous à leur dire pour leur donner envie de s'impliquer davantage?
Ah, vaste sujet. Il y a toujours eu dans l'histoire une partie de toutes les époques, une partie de la jeunesse qui, cette tentation de dire nous on est là pour rêver le monde, pour vivre notre vie, on n'est pas là pour entrer dans cette histoire de cuisine que sont la politique et voilà. Bon, ça a toujours existé. À l'inverse, vous avez toujours eu des jeunes très engagés parce que ayant envie de porter, de traduire dans la vie un idéal et donc votant pour tel ou tel camp politique, telle famille politique. Il y a toujours eu ces deux mouvements. Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir quand même que la démocratie est devenue dans le monde un modèle fragile. Il faut en avoir conscience. Vous avez les plus grandes puissances économiques de la planète aujourd'hui qui ne sont pas un régime démocratique. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent, mais finalement, et c'est la première fois qu'on entend ça, depuis 50 ans. Quoi. Alors qu'on croyait que finalement la démocratie était un truc qui allait se répandre sur la planète, les grandes dictatures d'avant 1940, c'était né dans les années 20 et années 30, que tout ça s'était effondré. Donc on a vraiment cru que la démocratie allait se répandre à travers le monde, avec l'économie de marché, que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y avait un professeur américain qui s'appelle Francis Fukuyama qui avait écrit un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire ». En réalité, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas la fin de l'histoire et au contraire qu'on a un retour d'un modèle qui conteste la démocratie. Et pourquoi il conteste la démocratie? Il la conteste d'ailleurs au nom d'une espèce d'efficacité. En disant « Nous, on est capable, on n'est pas une démocratie, mais on peut être plus efficace que vous ». Bon. Et donc, il faut savoir quand on est que la démocratie, elle est vraiment, je pense, aujourd'hui véritablement en danger dans le monde. Et si elle est dans le monde, elle le sera un jour en France. Vous avez un sondage qui avait été fait il y a 2-3 ans en France, dans lequel les Français étaient, je ne sais plus à quelle proportion, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais étaient à une proportion très inquiétante, répondaient qu'ils pensaient qu'il serait nécessaire qu'en France, il y ait un régime autoritaire pour remettre de l'ordre dans le pays. Voilà. Ça fait un peu froid dans le dos en le disant, j'en ai des frissons, que nos concitoyens puissent penser ça, que ça puisse être nourri par ces modèles qui existent à l'étranger, de pays non démocratiques qui prétendent mieux fonctionner. Voilà, il y a un vrai danger pour le monde dans lequel on vivra. Vous savez, c'est ce qui s'est passé en France dans les années 30. Hein. Dans les années 30, vous avez un tas de gens qu'on a retrouvés à Vichy pendant l'occupation, qui disaient, mais finalement, l'Occident est foutu, la France est foutue, c'est le chancelier Hitler qui a raison, etc. Hitler qui avait été élu, je le rappelle, démocratiquement, d'ailleurs, faut jamais l'oublier. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment, de nouveau, à une époque, je vous aurais pas dit ça il y a 10 ans, on est vraiment à une époque aujourd'hui où la démocratie dans le monde, elle est de nouveau fragile, et elle l'est aussi en France.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Marlix, pour vos réponses.
Merci Lana et Maëva pour cette interview fort instructive. Nous remercions également Olivier Marleix d'avoir pris le temps de nous expliquer cette phase primordiale, ainsi que toute son équipe pour la coordination. Restons dans l'ambiance électorale et passons sans transition au vote. Bonjour Dimitri, les bulletins sont en poche, le rideau est fermé, la chronique d'explication du jugement majoritaire, c'est parti.
Bonjour Charles, bonjour à tous. En effet, alors que les élections présidentielles arrivent à grands pas et que les candidats font tout en leur possible pour attirer un nombre important d'électeurs, il s'est passé quelque chose de particulier du côté de la primaire populaire avec la victoire de Christiane Taubira. Ce n'est pas dû à un quelconque scandale politique en défaveur d'autres candidats, mais à un nouveau mode de scrutin, le jugement majoritaire. On peut se poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est? Quel intérêt? Depuis quand ça existe? Comment ça marche? Pour tenter de répondre à ces questions, intéressons-nous d'abord à la méthode de scrutin la plus utilisée, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, qui est à ce jour la méthode de scrutin la plus utilisée en France métropolitaine. Quand vous allez voter pour un président, vous choisissez une vignette avec le nom du candidat inscrit dessus, vous la mettez dans une enveloppe et vous la déposez dans une urne. Au premier tour, vous aurez l'embarras du choix. Le second tour départagera les deux premiers candidats. Il s'agit de la méthode de scrutin la plus simple à ce jour. Cependant, il y a quelques défauts, et l'on sait tous que cette méthode est tout sauf parfaite. Quand vous votez pour un candidat, c'est plutôt en tout ou rien, comme si vous répondez uniquement par oui ou par non à une question. Dans ce cas, c'est comme si vous disiez oui à un candidat et non aux autres. Impossible de nuancer et donc d'exprimer efficacement votre opinion. Et si l'on ne sait pas pour qui voter ou si l'on veut voter pour personne, il y a soit le vote blanc, soit l'abstention, et les deux sont dangereux pour la démocratie. Car si tout le monde s'abstenait ou votait blanc, comment peut-on élire un président? Raison pour laquelle on rappelle que voter est un droit, mais aussi un devoir par respect pour la démocratie, auquel cas on éviterait cette situation plutôt délicate. Car dans une élection présidentielle avec 80% de taux d'abstention, je donne juste des chiffres bidons, on comprend qu'il y a un sérieux problème, soit du côté des candidats, soit du côté du suffrage, soit des deux côtés. De plus, quand un candidat prometteur progresse dans l'opinion publique, avec ce scrutin, il a assez souvent peu de chances de se qualifier au second tour. La faute à qui? Aux petits candidats qui partagent les mêmes idées que ce candidat et qui pourtant n'ont aucune chance de gagner. Comment ça se peut? Ces petits candidats, bien qu'ils ne puissent pas réussir à faire un gros score, mangent une part de voix à un ou des plus gros candidats. Ce qui les fait dégringoler au classement, comme si en athlétisme vous étiez un sprinteur sur le point de gagner et qui se fait attraper le col par d'autres sprinteurs n'ayant aucune chance de gagner. Ce phénomène porte un nom, le paradoxe d'Arrow. Un petit exemple est l'élection présidentielle de 2002 avec comme candidats Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin, Chirac étant alors élu. Pourtant, d'après les sondages de l'époque, si Jospin avait été au deuxième tour, il aurait facilement battu Chirac et Le Pen. Cela serait sans doute à cause de la présence d'autres petits candidats de gauche comme Jean-Pierre Chevènement ou Christiane Taubira qui lui ont mangé quelques parts de vote. Ce phénomène est aussi arrivé en 1995 lorsqu'Édouard Balladur, alors favori de l'opinion publique, s'est fait éliminer de peu au premier tour. On peut alors imaginer qu'il aurait emporté facilement sans la présence de Philippe de Villiers ayant obtenu un faible score et lui ayant mangé des voix. Pour pallier à cela, on a développé une méthode de vote stratégique qui s'appelle le vote utile. On vote pour celui qui a le plus de chances de gagner, même si on n'est pas vraiment d'accord avec ses idées. Ce n'est pas vraiment démocratique. D'autres méthodes se sont développées. Le classement des candidats par ordre de préférence. Cependant, dès qu'il y a beaucoup de candidats, pour ceux dont on n'a pas vraiment d'opinion, difficile de les classer. Et comme précédemment, la détermination du candidat peut être assez chaotique. Par exemple, prenons trois candidats, A, B et C, classés de la manière suivante. 34% les classent dans l'ordre A, B, C, 32% dans l'ordre B, A, C, et 34% C, B, A. B est éliminé et A l'emporte. Mais admettons que ça soit 37% qui préfèrent l'ordre A, B, C, 32% B, A, C, et 31% C, B, A. On élimine C et à notre plus grande surprise, B est vainqueur. Ça s'appelle la méthode du vote alternatif. La méthode de Condorcet, une variante, consiste à voir individuellement quel candidat serait capable de battre tous les autres. Mais comme la situation précédente, parfois ça bug. Par exemple, sur 3 candidats nommés A, B et C, si un tiers de la population préfère A à B et B à C, qu'un tiers préfère B à C et C à A, et que le dernier tiers préfère C à A et A à B, sur 2 candidats, A bas B, B bas C et C bas A, autrement dit, match nul et balle au centre. Si A est nommé président, les 2/3 de la population seraient prêts à le remplacer par C. Si c'est le candidat C qui est nommé, les 2/3 de la population seraient prêts à le remplacer par B. Et si B est au pouvoir, les 2/3 de la population seraient prêts à revoir A à la tête du pays, ce qui constitue un bilan assez chaotique. On appelle ça le paradoxe de Condorcet. Une autre méthode, qui s'appelle la méthode de Borda, est un peu une variante de la méthode de Condorcet qui consiste à attribuer des points en fonction du classement, un peu comme lors d'une compétition de F1 ou autre compétition en général. Mais dans tous les cas, le paradoxe d'Arrow intervient et ce résultat est influencé par la présence ou non d'un ou plusieurs candidats mineurs. On peut formuler ça sous la forme d'un théorème appelé théorème d'impossibilité qui dit que l'on ne pourra jamais élire correctement un président qui progresse aussi bien dans l'opinion publique que dans les résultats finaux et que ces derniers ne soient pas influencés par les candidats mineurs. Cela semble sans espoir, en pensant que le scrutin parfait n'existe pas. Mais ce théorème ne s'applique uniquement pour les systèmes de scrutin où l'on classe ou on nomme des candidats. On peut contourner ce système en jugeant les candidats individuellement. Une première méthode est la méthode par approbation, dans laquelle on peut voter pour plusieurs candidats et pas qu'un seul. S'il y a d'autres petits candidats, il n'y aura alors aucun changement. Mais nos opinions ne sont pas clairement exprimées et il est impossible de nuancer. Une autre méthode consiste à attribuer une note sur 20 à chaque candidat. Mais il faut trouver une échelle commune et un 15 sur 20 ne veut pas forcément dire la même chose pour vous comme pour moi. Et il est facile d'exagérer les notes en mettant 20 à son candidat favori et 0 aux autres. Et c'est sur cette question que se sont penchés deux chercheurs français, Cocorico, Rida Laraki et Michel Balinski, et qui se sont dit « Tiens, au lieu d'attribuer des notes, et si on attribuait des mentions, comme au bac ?» Et paf ! Le jugement majoritaire est né. Le principe est simple. On attribue une mention à chacun des candidats sur un total de 7. Excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter. Lors de la dépouille, on fait un pourcentage de chacune des mentions et on les réunit sur un histogramme empilé. On trace un trait à la graduation 50% du graphique et on regarde sur quelle mention tombe le trait. Cette mention, c'est la mention majoritaire, c'est-à-dire que c'est la mention que la moitié de la population accorderait au minimum ou au maximum un candidat. Par exemple, même si vous avez un certain pourcentage de mentions excellentes, cela ne changera rien si la moitié de la population vous accorde au minimum bien, assez bien ou passable, voire très bien ou insuffisant. En cas d'égalité, on départagera avec les pourcentages. Un des gros avantages est qu'il n'y a pas besoin de faire du vote utile, car même si vous exagérez vos votes, ça ne changera pas la mention majoritaire. Il suffit de voter sincèrement. Et là, votre opinion est clairement exprimée. De plus, la présence ou non de petits candidats n'influencera pas le score final, car chacun des candidats est jugé individuellement. Enfin, le paradoxe d'Arrow ne s'applique pas, car un candidat qui progresse dans l'opinion publique ne peut que progresser dans les résultats finaux. Et si des candidats ont obtenu des mentions majoritaires insuffisantes ou à rejeter, lors des prochaines élections, on interdit à ces candidats de se représenter tout en exigeant de nouveaux candidats. Cette méthode ne nécessiterait qu'un seul tour. C'est notamment grâce à ces avantages que la primaire populaire a adopté cette méthode de scrutin pour exprimer clairement l'opinion de chacun des électeurs et renforcer le bien-être démocratique. Alors, pourquoi ne pas l'adopter pour élire un président, voire lors des référendums ? Je vous conseille de vous référer à une vidéo de la chaîne Science Étonnante qui s'intitule « Réformons l'élection présidentielle ». N'oubliez pas le petit point d'exclamation.
Merci Dimitri pour cet éclairage sur ce mode de scrutin fort intéressant. Pour rappel, la démocratie, c'est l'affaire de tous. Retrou en air, c'est maintenant terminé. En attendant la prochaine émission, je vous souhaite de bonnes ondes. Portez-vous bien. Trying not to be sick again.
and holding on.